Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le mari et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, mais quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ses signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire à ses disciples et ses disciples crurent en lui. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire biblique qu'on voit de l'eau changer en un liquide rouge. Vous êtes d'accord? Quel miracle dans le passé est-ce qu'il y a déjà eu qui était similaire? La plaie d'Égypte, l'eau du Nil qui a été changée en sang par Moïse. Et puis, le ministère de Moïse, ça a été un ministère surtout marqué par la justice de Dieu. Moïse est celui qui a apporté la loi. C'est par son entremise que Dieu a fait révéler sa sainteté, ses standards très élevés pour l'humanité, sa perfection. Et donc, Moïse a un ministère de justice et de jugement. Donc, ce miracle et toutes les autres plaies d'Égypte manifestent le jugement de Dieu. Mais ici, on voit un miracle similaire, mais en même temps qui est contraire. Ici, ce n'est pas un jugement qu'il s'agit. C'est plutôt une réjouissance. C'est plutôt Jésus fait un miracle similaire, mais pour lancer un message un peu différent, à savoir que le ministère de Jésus sera réalisé d'abord par l'expression de la grâce de Dieu, de la grâce surabondante de Dieu. Et donc, ici, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est les petits détails. Des petits détails comme au verset 6, Jean prend la peine de mentionner qu'il y avait 6 jars de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Donc, comme on l'a vu, c'est dans le passage biblique ici, on parle d'environ 100 de litres. Donc, 2 ou 3 mesures, c'est de 80 à 120 litres. Fois 6, ça fait, si j'ai les calculs, j'ai fait mes mathématiques, ça fait 450 à 680 litres de vin. Autrement dit, 900 bouteilles là, de vin de qualité, là, les vins là, 750 ml. Là. Imaginez 900 bouteilles qui arrivent là, du bon vin de qualité dans un mariage qui est en train de tomber à l'eau. C'est le moment embarrassant que les mariés étaient en train de vivre a été transformé en un moment de réjouissance. Ce qui est clé là-dedans, c'est vraiment la surabondance de la grâce. Merci. La surabondance de la grâce qui est manifestée par ce miracle de Jésus. Et puis, donc, c'est vraiment, ça lance un message pour tout le ministère de Jésus. Et il y a des passages clés comme dans l'évangile de Jean qui vient confirmer ce que je dis. Jean 1, 14, 16 à 18. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Donc, vous et moi, on a reçu l'abondance de sa grâce déjà, et nous avons déjà reçu, et nous recevons, et nous recevrons encore des bénédictions après bénédictions grâce au ministère de Jésus. Et ce passage-là dit, le verset 18 dit, la plus grande des bénédictions qui découle de ce ministère que Jésus est venu faire, c'est-à-dire connaître Dieu. Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès de lui, lui seul l'a fait connaître. » La plus grande des bénédictions qu'on peut tous avoir, c'est de connaître Dieu. Et pendant mes vacances, j'ai pu lire un livre qui m'a rappelé cette simple vérité. Peut-être que vous êtes comme moi, mais des fois, on peut être confus entre nos priorités. Et une des priorités, des fois, que moi, je confonds, c'est de faire des choses pour Dieu versus être la personne que Dieu veut que je sois, être avec Dieu, connaître Dieu. Et puis, je lisais ce livre de William Lane Craig, qui est un théologien apologète que j'aime beaucoup. Et donc, cet homme avait eu des provisions miraculeuses de Dieu pour aller faire des études en Allemagne. En fait, c'est sa femme qui lui avait dit, « Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu aimerais faire? » Et puis, il lui avait dit, « J'aimerais aller faire des études en Allemagne, un doctorat sous telle personne. » Et finalement, sa femme avait fait des initiatives, elle avait contacté le professeur en question en Allemagne, et puis il avait accepté de rencontrer William Lane Craig et tout. Et elle a même fait des démarches pour qu'il ait une bourse, et finalement, il a eu une bourse du gouvernement de l'Allemagne qui a pourvu à toutes ses études, donc des dizaines de milliers de dollars pendant tout le long de son doctorat. Et là, cet homme, donc William Lane Craig, fait son doctorat en Allemagne, et en théologie, c'est sur la résurrection. Lui, il voulait défendre l'historicité de la résurrection, donc démontrer que c'est vrai. Et puis, il arrive à la fin, il soumet sa thèse de doctorat, des centaines de pages, 300 quelques pages. La thèse est approuvée. La seule chose qui reste, c'est de passer l'examen oral, donc de faire la défense de sa thèse. Et là, donc, pour se préparer, William, dans le fond, essaie de contacter le professeur, mais puisqu'il est trop occupé, le professeur ne répond jamais, tout ça. Il demande à son assistant comment se préparer pour cette défense. Là, l'assistant lui dit, « Ben, tu as juste à étudier les œuvres du professeur que tu vas rencontrer. » Là, il fait juste poser des questions sur ses propres œuvres. Finalement, Craig fait ça, il étudie juste les œuvres d'un seul auteur. Il arrive à la défense de sa thèse et de A à Z, ça va mal. Comme tout de suite, il se fait poser des questions sur des points précis et finalement, de question en question, il doit admettre qu'il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Et il voit son doctorat lui couler, lui échapper entre ses mains. Et finalement, il ne passe pas. Il coule. Donc, il n'a pas son doctorat. Et puis, bref, c'était vraiment, vraiment... Ça, c'est le fruit de quoi? 3-4 années de travail et finalement, c'est un échec. Donc, finalement, il va dans le temps des fêtes chez sa famille. Il dit ça à sa mère. « Maman, j'ai pas passé ma défense de ma thèse. » Et sa mère lui a dit « Who cares? » en anglais. « Peu importe. C'est pas grave. » Et là, ça l'a frappé, puis vraiment l'esprit lui a démontré que le plus important, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu. Le plus important, c'est être la personne que Dieu veut que nous soyons. Et c'est les relations interpersonnelles, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et puis ça lui a vraiment rappelé que le succès personnel, même si c'est pour Dieu, n'est pas la priorité pour un chrétien. La priorité, c'est de connaître Dieu. Et ça, c'est une grâce que Jésus nous accorde à tous et chacun. Et puis, donc pour moi, ça a été comme un rappel dans mes vacances que Dieu veut d'abord que je sois la personne qu'il veut que je sois. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est une bénédiction de pouvoir être à son service, mais il faut juste garder les priorités à bonne place. Donc, la grâce surabondante du ministère de Jésus manifestée dans le miracle à Cana. Romains 5, versets 20 à 21. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, De même, la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la loi que Dieu a donnée à Moïse a manifesté de plus en plus le péché, a démontré que à quel point on n'est pas capable d'atteindre la cible parfaite que Dieu veut que nous atteignions. Et puis, avant Moïse, il y avait quoi comme loi pour les êtres humains? Il y avait la conscience. Et puis, cette conscience-là est déjà un GPS, si on veut, un indicateur de par où on doit passer dans notre vie pour plaire à Dieu. Mais on peut, comme un système de son, on peut baisser le volume de notre conscience et tranquillement, c'est ça, ne plus l'entendre. Mais avec la parole de Dieu, avec la révélation spécifique de Dieu, ça vient comme augmenter le volume, si on veut, de notre conscience. Et là, le péché devient de plus en plus manifeste. C'est comme, wow, OK, là, quand on voit les 10 commandements, puis on examine notre propre vie à la lumière des 10 commandements, on voit de plus en plus qu'on ne remplit pas le critère de Dieu, on n'atteint pas le standard de Dieu. Mais encore là, le sacrifice de Jésus, lui, vient manifester la vie éternelle et nous donner accès en lui, par son sang. OK, Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Si la grâce de Dieu est si abondante qu'on peut comparer ça, si on veut, là, à un mariage, à quelqu'un qui apporte 900 bouteilles de vin de qualité, et c'est surabondant. Il y en a. On n'a pas besoin de s'inquiéter qu'il va en manquer. Eh bien, une des choses que je veux que vous reteniez ce matin, c'est ceci. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a. Il y en a surabondamment, la grâce de Dieu. Donc, c'est quoi votre besoin ce matin? Est-ce que c'est d'être encouragé? Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que c'est tout simplement d'avoir la joie du Seigneur? Vous avez comme la tristesse ou une épreuve? Est-ce que c'est la persévérance que vous avez besoin? Quelle grâce de Dieu avez-vous besoin? Cette grâce si variée, elle est diverse. Et peu importe votre besoin, elle peut venir vous rencontrer ce matin. Et puis, mon message, c'est ne vous en privez pas. Dans ce verset, il y a une petite illustration qui est intéressante. Je l'ai mis aussi en français courant parce qu'elle est plus évidente. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Donc, ce verset dit que si on se prive de la grâce de Dieu, si dans nos luttes, dans nos défis personnels, dans nos combats personnels, on ne vient pas à Dieu pour avoir sa vie, pour avoir sa grâce, pour avoir son aide. Ce qui se produit, c'est qu'il y a comme une sorte d'empoisonnement personnel qui se passe. C'est comme un peu si une bactérie vient, comme si on est une plante, une bactérie vient en nous et commence à se propager. Et puis là, ça fait ceci. Vous avez déjà vu des feuilles comme ça? Donc, on appelle ça la pathologie végétale. Il y a tout un domaine dans la science qui étudie ça. Donc, les bactéries qui viennent et qui s'attaquent à des plantes. Et on peut voir sur cette photo-là que, bon, il y en a une feuille qui est de toute évidence en mauvais état. Mais regardez, elle à gauche, elle commence à avoir des petits points de la maladie de celle qui est à droite. Et même juste en haut aussi, où est-ce qu'il y a le texte? Encore là, il commence à avoir des petits points. Donc, une feuille qui une bactérie qui est là, qu'elle ne peut pas combattre par elle-même, commence à se propager, commence à atteindre d'autres feuilles. Et puis, donc c'est ça, tout de même un processus là, par lequel là, ça va transmettre ça à ses propres semences. Ces semences qu'elle va laisser va faire en sorte que les prochaines plantes vont déjà avoir infectées, ou bien, en tout cas, que ça va se propager de plus en plus. Mais le point, c'est que peu importe nos problèmes, nos luttes, le Seigneur peut nous donner sa vie et régler le problème de la plante à la base. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est un problème dans le couple, par exemple? La grâce de Dieu peut venir faire la différence. Quand que dans mon couple, j'ai des défis, je me rappelle à quel point Dieu me pardonne plus à moi que j'ai à pardonner à Elsa. Comment sa grâce à mon égard, elle est beaucoup plus grande que la grâce que Dieu me demande de faire à l'égard d'Elsa. Est-ce que vous avez besoin de Dieu, de la grâce de Dieu par rapport à certains défis, comme peut-être certains vivent les sentiments de solitude, que dans le fond, tous les gens sont en vacances, puis là, vous restez ici. Bien, la grâce de Dieu peut encore venir vous rencontrer à ce niveau-là. Jésus est toujours avec vous. Jésus est toujours là pour nous. Et non seulement ça, mais il nous donne une belle famille en lui. Et puis, sa grâce est suffisante pour tous les domaines de notre vie. Est-ce que c'est d'expérimenter sa grâce dans des doutes, peut-être, que vous avez, ou des questions que vous avez par rapport à votre foi, peut-être des combats que vous vivez en ce qui concerne des frustrations, peut-être des incompréhensions que vous avez à l'égard de votre foi? Eh bien, encore là, la grâce de Dieu peut venir vous rencontrer, et puis en criant à Dieu, en demandant à Seigneur, viens te manifester, viens me faire comprendre des choses que je ne comprends pas, viens te révéler à moi, eh bien, la grâce de Dieu, encore là, elle peut se manifester si on est ouvert à la recevoir, si on est ouvert à l'expérimenter. Il y en a abondamment, comme le vin au mariage. Donc, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Peu importe c'est quoi votre besoin ce matin, je vous invite à prendre un temps de prière, puis à venir devant Dieu et à lui dire, « Seigneur, je veux expérimenter ta grâce dans tel aspect de ma vie. J'ai besoin de te voir à l'œuvre à tel niveau. Merci de ce que tu veux que j'aie une vie abondante. Merci de ce que tu veux me donner tes bienfaits, ce que tu veux me donner ta vie, et puis je veux la recevoir ce matin. » Donc, je vous invite à prier. J'ai laissé un petit temps juste pour que vous vous adressiez vous-même à Dieu, et puis par la suite, je vais éclore en prière. Père Céleste, merci parce que tu es saint, parce que tu es juste, mais aussi parce que tu es rempli d'amour, d'un amour débordant, et de ce que tu as envoyé Jésus pour le manifester, Seigneur. Merci de ce que ta grâce, elle est surabondante, et puis peu importe où est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons venir à toi et puis puiser à nouveau dans ta grâce infinie, Seigneur. Et ma prière, c'est que chacun de nous, peu importe notre besoin ce matin, on puisse crier à toi et puis te voir, Seigneur Dieu, déverser ta grâce dans notre vie, déverser ta bonté, tes bienfaits, abondamment comme tu l'as fait aux noces de Cana, Seigneur. Merci parce que tu as un ministère, Seigneur Jésus, de réconciliation. Tu n'as pas mis de côté la justice, au contraire, tu l'as satisfaite, mais tu as été plus loin en tendant ta grâce, Seigneur Dieu. Ce matin, on veut tendre notre bras et puis la saisir pour nous. Peu importe ce que ça veut dire, peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau du couple, que ce soit personnellement, que ce soit au travail, Seigneur, on veut expérimenter ta grâce et puis puisses-tu venir faire de nous des lumières dans ce monde et que les gens autour de nous qui ont besoin aussi de ta grâce, Seigneur Dieu, puissent savoir le chemin. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.